Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être toujours fidèle à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous allons encore avoir un copieux programme de concerts à vous annoncer et à vous présenter aujourd'hui. Et comme d'habitude, nous allons revenir sur les événements musicaux auxquels nous avons assisté ces derniers jours. Si vous nous écoutez régulièrement, vous savez qu'il ne manque pas ces temps-ci. Pour m'aider dans cette tâche, j'ai de nouveau sollicité les lumières de Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. À ses côtés, dans ce studio, deux invités d'honneur cette semaine, le violoniste et compositeur Gilles Colliard, directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, et le guitariste et compositeur José Sanchez. Si nous les recevons tous les deux, c'est parce que l'Orchestre de Chambre José Sanchez et la danseuse Stéphanie Fuster donnent leur concert-spectacle flamenco ce mois-ci. Prochaine date, les 14 et 15 février à Saint-Pierre-des-Cuisines. Nous allons en parler avec eux en seconde partie d'émission, ainsi que du reste de la saison de l'Orchestre de Chambre. En attendant, nous allons d'abord revenir sur l'actualité musicale récente, comme le veut la tradition de Mélomanie. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et nous allons commencer ce retour arrière par le concert de l'ensemble de cuivre de l'Orchestre National du Capitole. Il a eu lieu samedi à la Halle aux Grains. Il était dirigé par notre invité de la semaine dernière, David Minetti, le clarinettiste solo de l'Orchestre National du Capitole, qui aime de temps à autre s'adonner à la direction d'orchestre. Le programme était intitulé « Les cuivres font leur cinéma ». On y trouvait donc des musiques de films, mais pas seulement. Parmi ceux qui ont assisté à ce concert, Serge Chauzy, à qui je vais demander tout de suite de nous faire part de ses impressions. Je n'ai pas pu être présent, alors Serge, donnez-moi des regrets. Est-ce que les absents ont eu tort ?
Ah oui, 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 les absents ont eu tort. Bon, on connaît les qualités de tout ce qui est instrument avant. Pas seulement, évidemment, mais en particulier, de l'Orchestre National du Capitole. Hein. Depuis longtemps, on admire la petite harmonie, ce qu'on appelle la petite harmonie, donc les bois. Et les cuivres ne sont pas en reste, hein. Ça a été vraiment un très beau concert, très original, avec évidemment des transcriptions, hein, puisque tout n'était pas original, mais quelques œuvres originales également. Et donc, vraiment un très beau programme, très varié. Alors pour ma part, je dois préciser que j'ai assisté au même programme que celui de la Happy Hour de samedi, mais qui était donné deux jours avant pour l'association AIDA. Mais c'est exactement le même programme. Donc il y avait là du beau monde, vraiment, une vingtaine de musiciens quand même, hein, ce qui est pas mal du tout. Et puis il n'y avait pas que des cuivres, il y avait des percussions, il ne faudrait pas les oublier. D'ailleurs, systématiquement, je ne sais pas pourquoi, lorsqu'il y a un salut à la fin, lorsqu'on fait lever les percussions, c'est eux qui remportent.
C'est souvent eux qui ont le plus gros succès.
Oui, le gros succès. Les percussions, vraiment, sont très appréciées à Toulouse. À juste titre, hein, c'était très bien. Donc, ce concert qui avait comme sous-titre « Les cuivres font leur cinéma », ben, il y avait évidemment beaucoup de musique de film, mais par contre, il s'est ouvert par une fanfare impressionnante, la fanfare des Jeux Olympiques, version brass band, composée par John Williams. Donc, vraiment quelque chose de très
énergique. Oui, c'était
très
le
énergique.
Thème des Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles,
84,
pour être précis.
Oui, exactement. Voilà. Donc, vraiment formidable. Ça mettait bien dans l'ambiance. Et puis, il y a eu quand même une sorte d'hymne de marche, qui est une marche, alors, Feierlicher Heimzug der Ritter, der, je prends ma respiration, Johanniter Ordens, l'ordre de Saint-Jean.
Je vois Gilles Colliard sourire.
Oui.
Il est suisse-français, mais apparemment,
non,
notre
mais
allemand
l'allemand
l'a fait sourire un peu.
N'a pas de secret pour lui, évidemment. Je dois dire avec honte que j'ai fait 7 ans d'allemand, mais j'ai presque tout.
Il faut dire que ce titre est particulièrement difficile à prononcer pour un nom germaniste.
Oui, oui. Donc, du Richard Strauss. Bon, on sait que Richard Strauss compose magnifiquement pour les cuivres. Hein. Les cors, les pupitres de cors de Richard Strauss. Son père était corniste, hein, donc il a vraiment très bien intégré cette manière d'écrire. Et puis il y a eu un arrangement également d'une pièce de Jim Parker qui s'appelle A Londoner in New York. Donc un Londonien à New York, que David Minetti a présenté comme un Toulousain à New York d'ailleurs, mais très bien. C'est arrangé par Nicolas Châtenay, qui est le premier trompette de l'orchestre de l'Opéra de Paris, un très grand trompettiste, un magnifique arrangeur, donc de très belles choses. Alors il y a eu ensuite des tas d'œuvres évidemment issues du cinéma, avec ce qui est indiqué comme The Lord of the Rings, mais vous m'avez compris, c'est Le Seigneur des Anneaux, donc de Howard Shore, et là aussi dans un arrangement de Nicolas Chatenay, et puis une pièce de lui-même, de Chatenay,
parce qu'il est aussi
qui
compositeur.
S'appelle Storm, qui est tout à fait impressionnante. Tempête, hein, donc très très bien. Et puis il y a eu aussi quelques musiques extraites des Pirates des Caraïbes. Donc,
la saga très... avec Johnny Depp
voilà,
en vedette.
Voilà. Donc très réjouissant. Alors on a pu admirer au passage quelques solos musclés, je pourrais dire, en particulier pour le corps. Solo, Jacques Delaplanque, qu'on le connaît bien, hein, c'est un très grand musicien. Et puis pour la trompette aussi, et puis pour les trombones, et avec une présentation, mais alors... aux petits oignons, du tubiste de l'orchestre qui est Sylvain Picard, que l'on appelle quelquefois le caribou, puisqu'il a un accent québécois magnifique. Donc, c'est lui qui a présenté le concert avec beaucoup d'esprit. Et d'ailleurs, à la suite du concert, il y a eu quand même deux bis, dont le premier était un hommage à Michel Legrand. Bon, évidemment, oui. Ça s'imposait un peu, avec le fameux « Les moulins de mon cœur », hein, donc là, ce que tout le monde peut fredonner. Et puis, une petite musique de rue avec... le fameux sous-bassophone, cet instrument gigantesque qui pèse 25 kilos, dans lequel on s'installe, qui est joué là aussi par Sylvain Picard, et qui a beaucoup réjoui l'assistance. Donc un grand succès, beaucoup de brio et de musique réjouissante et sans complexe.
C'est ce que je veux dire. Alors, est-ce que le public a répondu présent? Est-ce que la salle était bien remplie, avec un public apparemment enthousiaste?
Absolument.
Bon, c'est Happy Hour, ça marche très bien.
Hein, ça marche très bien. Oui.
Ces concerts du samedi à 18h. Nous allons écouter une des œuvres au programme du concert, Les Cuivres font leur cinéma. Et j'ai choisi la bande originale de Pirates des Caraïbes, composée par Klaus Badelt. En voici un extrait que vont reconnaître sans peine tous les fans de la saga, dont Johnny Depp tient le rôle principal. Extrait de la bande originale de Pirates des Caraïbes, une musique composée par Klaus Badelt. C'était un des morceaux au programme du concert Les Cuivres font leur cinéma, donné samedi dernier à la Halle aux Grains par l'ensemble des cuivres de l'Orchestre National du Capitole, sous la direction de David Minetti. Nous allons maintenant revenir une dernière fois sur Lucrezia Borgia, dont l'ultime représentation a eu lieu dimanche au Théâtre du Capitole. Nous avions parlé la semaine passée de cette version de l'opéra de Donizetti, mais seule Anne-Marie Chouchon l'avait vue parmi nous. Serge et moi, nous avons pu la découvrir entre-temps, ce qui va nous permettre de comparer nos sentiments respectifs. Serge, qu'est-ce que vous avez pensé de cette production dont la soprano française Annick Massis tenait le rôle-titre ?
Pour ma part, j'ai vu la représentation du premier.
Alors moi, j'ai vu la dernière, j'ai vu celle de dimanche.
Mais je crois que c'est très important à dire parce que toutes les représentations ne sont pas équivalentes. Il semblerait qu'à la première, c'était déjà bien, mais perfectible, je dirais. Et là, le premier, c'était vraiment excellent. Il y avait vraiment une atmosphère électrique avec une Annick Massis qui m'a sidéré.
Mais
vraiment.
Qui a sidéré beaucoup
c'était impressionnant.
Personnes présentes qui pensaient qu'elle aurait peut-être quelques difficultés.
Aucune
dans ce
difficulté
rôle.
Technique et un engagement absolu. Enfin, il y a des passages incroyables, comme la fameuse scène finale. Gaetano Donizetti n'était pas très tendre avec ses héroïnes, parce qu'après avoir chanté pendant toute l'œuvre, puisque c'est elle qui chante le plus quand même.
Oui, largement.
La scène finale est terrible sur le plan technique, avec une espèce de feu d'artifice vocal, et avec une tenue. Elle a fait ça de manière impressionnante, et elle termine sur un aigu flamboyant. C'était tout à fait impressionnant.
Alors, puisqu'on parle d'Annick Massis, effectivement, elle a toujours eu des aigus flamboyants. Elle est réputée pour ça. Mais surtout, je pense que ce qui a dû surprendre les observateurs, c'est que son médium et son grave ont été vraiment au rendez-vous, là où on pensait que justement qu'elle pourrait avoir, comme je disais, des difficultés qu'elle avait, paraît-il, connues lorsqu'elle avait donné Maria Suarda il y a un ou deux ans. Je ne sais plus où c'était, à Nice, ou je ne sais plus où. Où là, ça avait été un peu difficile pour elle. Là, vraiment, elle a été de bout en bout. En tout cas, pour moi, parce que j'ai
pour
vu
moi aussi,
pour ma part,
vraiment,
remarquable.
Là aussi, oui. Elle a eu un véritable triomphe. En plus, le 1er février, c'était la date de son anniversaire. Et à la fin, au salut, tout l'orchestre lui a chanté bon anniversaire. Elle était toute émue, elle en a pleuré. C'était très émouvant, cette fin.
Elle a eu une très grosse ovation aussi pour la dernière, après la dernière.
Une ovation incroyable, vraiment magnifique. Ouais. Et puis, il n'y avait pas qu'elle.
Oui, c'est ça, parce que
il y avait une belle distribution.
Second rôle, entre guillemets, été formidable.
Le jeune ténor turc.
Alors pour moi, c'est la grande révélation.
Ne m'aventurerai pas à prononcer le nom. Alors, allez-y, cher Eric.
Ça s'écrit Mert Sungu, je ne sais pas comment on prononce.
Voilà.
Mais Mert Sungu, jeune ténor
turc
dans le rôle de Gennaro, formidable.
Oui, excellent. Et puis la basse, donc, Bauer, qui a été...
Andreas Bauer Canabas.
Voilà, qui a été excellent. Alors, je voudrais souligner le duo... Entre donc Alfonso, ce personnage, et Lucrezia, c'est stupéfiant. D'autant plus que scéniquement, on leur demande des choses. Et vraiment, Annick Massis se bat. Elle se bat avec son époux, son troisième époux, les autres ayant été éliminés auparavant. Donc, c'était tout à fait impressionnant. Et puis, une très belle... rôle travesti donc de
Mafio Orsini
donc qui est
Eleonor Pancrasi,
qui a aussi donné un récital malheureusement auquel je n'ai pas pu assister.
Elle est d'origine corse, Eleonor
Pancrasi. Oui, elle est corse. Donc très bien aussi, un très beau timbre et une belle direction d'orchestre.
Sagripanti. Il faut qu'on parle aussi de ça.
L'orchestre
comme d'habitude a été excellent.
Bien sûr.
Mais alors la direction de notre ami Sagripanti aussi a réuni tous les suffrages.
Absolument.
Y compris ceux des musiciens de l'orchestre.
Oui, qui l'ont vraiment applaudi. Donc, très bien. Et une mise en scène d'Emilio Saggi, on en a déjà parlé, intelligente, bien faite, que moi, personnellement, j'ai appréciée, un peu abstraite, avec des panneaux que l'on déplace au cours de la représentation, mais bien fait, bien imaginé, sans excès d'actualisation, comme on le voit si
c'était
souvent.
C'était assez dépouillé, le décor.
Oui, très dépouillé.
Ça, on peut le dire. C'est un parti pris. Auquel tout le monde n'a pas adhéré.
Non,
moi, ça ne m'a pas dérangé. Il y avait des réserves, en tout cas après les premières représentations, sur la direction d'acteur.
J'ai l'impression que les acteurs en question, donc les chanteurs-acteurs, ont dû s'affirmer au fur et à mesure des représentations, parce que ça ne m'a pas gêné. Non, alors évidemment, très souvent, ils viennent au devant de la scène pour chanter leur air, mais bon, c'est le genre musical qui le veut, le bel canto, c'est aussi ça. Il n'y a pas que du théâtre animé, donc. Mais c'était quand même bien fait. Je parlais de ce duo entre les deux personnages principaux. C'était un duo particulièrement animé, un vrai duo de théâtre. Non, il y avait de belles choses.
Alors, effectivement, il y a des gens qui étaient venus à la première, même pour certains, comme notre confrère Michel Grialou, qui sont venus à toutes les représentations. Et tous ont dit effectivement que ça s'était considérablement amélioré entre la première et les deux dernières. Au fil des représentations, il y a eu vraiment une amélioration évidente. Bon, moi je resterai en tout cas sur mon jugement, c'était vraiment une très belle production, il y a assez peu de réserves à faire dessus, en tout cas il me semble.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui.
Alors, vous noterez que le prochain opéra au programme de la saison est Ariane à Naxos de Richard Strauss et qu'il avait donné au Théâtre du Capitole du 1er au 10 mars dans une mise en scène de Michel Faux. Là aussi, ça va être un petit événement parce que je crois que ça va être une première au Théâtre du Capitole pour lui. Ça sera sûrement, là pour le coup, beaucoup plus insolite que ce qu'on a pu voir dans Lucrezia Borgia. Vous pouvez, bien sûr, d'ores et déjà réserver vos places pour une des 5 représentations. Fin de cette première partie d'émission. Rendez-vous dans une minute après la petite pause habituelle avec Serge et nos deux invités, Gilles Colliard et José Sanchez.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec nos invités d'honneur, le violoniste et compositeur Gilles Colliard, directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, et le guitariste également compositeur José Sanchez.
Mélomanie, l'agenda.
Nous retrouvons donc Gilles Colliard et José Sanchez pour parler avec eux du programme des prochains concerts de l'Orchestre de Chambre de Toulouse à Saint-Pierre-des-Cuisines, jeudi 14 et vendredi 15 février à 20h30. On sait que les concerts mensuels de l'Orchestre de Chambre sont dédiés à un instrument, à un compositeur ou à un genre musical. Cette fois-ci, c'est le flamenco qui est à l'honneur en ce mois de février. L'Orchestre de Chambre et le flamenco, Gilles Colliard, c'est une première. Je me demande s'il n'y a pas eu un précédent, mais alors ça doit remonter à pas mal d'années, avec Bernardo Sandoval. Est-ce que je me trompe ?
Alors, j'étais sans doute pas...
Je crois que vous n'étiez pas encore aux commandes, là, effectivement.
Non. Alors, c'est vrai qu'on fait des concerts thématiques chaque mois, des concerts d'abonnement thématiques voilà, qui vont apporter un éclairage sur un artiste, sur une œuvre, sur un style, etc. Et puis, j'aime bien de temps à autre sortir le public des sentiers du classique, on va dire, pour les plonger dans un autre univers. Et ma rencontre avec José Sanchez, il y a à peu près, je pense, 2 ou 3 ans, est une vraie révélation, une vraie découverte de ce flamenco qui m'intéresse à double titre parce que vous savez que j'ai toute cette passion pour la musique baroque et que j'ai eu cet intérêt et cette envie de travailler l'authenticité, de retrouver l'authenticité de ce langage. J'ai trouvé chez José Sanchez un questionnement vraiment sur les fondamentaux du flamenco et puis une manière de le retranscrire avec aussi une vision très contemporaine, ce qu'il fait avec Stéphanie Fuster, la danseuse. Et c'est vraiment cette approche-là qui m'a vraiment intéressé et cette idée de pouvoir faire tout à coup cette collaboration.
Alors vous, José Sanchez, vous êtes Toulousain depuis une douzaine d'années, exactement, je crois. Vous venez vraiment du flamenco à la base, c'est votre ADN, comme on dit aujourd'hui.
Exactement, moi c'est de famille, je commence à 5 ans, mon père était guitariste professionnel et dans ma famille tout le monde faisait du flamenco, donc c'était plus qu'un choix, une évidence, je ne me suis jamais posé la question.
En revanche, vous êtes habitué au mélange des genres, on va dire ça comme ça, parce que je sais que vous avez travaillé avec le scénographe Aurélien Bory, oui, lors d'un spectacle précédent. Et donc, vous avez déjà créé un spectacle avec cette danseuse Stéphanie Fuster, qui, je le précise, est fondatrice de la Fabrica Flamenca à Toulouse. Qu'est-ce que vous aviez monté comme spectacle avec elle ?
Bon, avec Stéphanie Fuster, c'est une longue collaboration. Ça fait à peu près 12 ans, d'ailleurs, depuis que je suis à Toulouse, qu'on collabore ensemble. Le spectacle du metteur en scène Aurélien Bory, qui a écrit donc un portrait pour Stéphanie Fuster, qui s'appelle « Qu'est-ce que tu deviens ?». C'est un peu mon arrivée musicale. C'est là où j'ai commencé un changement de cap, où je commence à composer pour le théâtre et avoir une vision plus scénique de la musique.
Donc, ce qu'on peut appeler des musiques de scène ?
Ce qu'on peut appeler des musiques de scène, c'est-à-dire que la musique n'a plus propos à être seule, mais à propos à donner sens au reste.
Et là aussi, ce sont toujours avec des bases flamenco, aux musiques, où vous vous aventurez un peu plus loin.
Alors, moi, je suis un passionné de toutes les musiques. Bien évidemment, de toutes les musiques traditionnelles. Donc, j'ai beaucoup étudié toutes les musiques traditionnelles, mais je suis un passionné de musique en règle générale. Donc, j'aime penser que je fais de la musique avant de faire un style en particulier. Maintenant, mon alphabet, c'est le flamenco. C'est mon langage de base. Et donc, je partirai toujours de là, que je veuille ou non.
Et ces musiques que vous composez pour la scène, c'est uniquement à la guitare ou vous additionnez d'autres instruments ?
Ça m'arrive d'additionner d'autres instruments, bien évidemment, oui. Alors le chant, ça c'est pour moi le plus facile, puisque dans le flamenco, c'est une évidence qu'il y ait du chant. Et après, oui, ça m'arrive, bah, comme en l'occurrence, quand on a commencé à travailler avec Gilles, j'ai eu la première rencontre, un très très fort désir de collaborer avec lui. Et donc, j'ai tout de suite pensé, mais comment je vais pouvoir faire pour travailler avec lui, pour écrire, puisque je ne connaissais pas le solfège quand je l'ai rencontré.
Alors c'est là, justement, que je voulais en venir. Vous travaillez ensemble pour monter ce spectacle flamenco, mais alors, qui participe parmi les musiciens de l'orchestre de chambre? Quels sont les instruments représentés? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y en a un seul? Expliquez-nous tout, Gilles Colliard.
Alors là, c'est même pas une formation réduite. L'orchestre, là, sera représenté uniquement par son directeur artistique, c'est-à-dire moi-même, et José à la guitare, avec la participation d'Alice Efremov, une formidable soprano, pour ce concert, ce spectacle, je ne sais pas trop comment nommer cet objet-là.
On va dire spectacle musical.
Voilà, c'est un spectacle musical, oui. Mais c'est un spectacle de chorégraphie. C'est un spectacle où finalement les oreilles vont être aussi sollicitées que les yeux. C'est vraiment quelque chose de très global. Et effectivement, moi, quand j'ai rencontré José Sanchez, effectivement, il avait cette formation de musicien, on va dire, de musique qui se transmet de manière verbale, orale. Et c'est vrai qu'on avait cet écueil du solfège. Mais comme c'est un musicien extrêmement doué, il a très rapidement, en quelques mois, rattrapé des années de retard, entre guillemets, sur cette notion de solfège, et ce qui fait qu'il a pu écrire toutes les musiques qu'il avait en tête afin qu'on puisse effectivement collaborer, parce que moi, je n'avais pas du tout la possibilité, de par déjà mon activité et mon inculture par rapport à la musique flamenco, de commencer à me mettre toute cette musique en tête.
C'est la question que j'allais vous poser. Pour vous, Gilles Colliard, c'est la première collaboration avec un musicien de flamenco?
Oui, c'est la toute première. Alors, j'ai effectivement côtoyé dans ma carrière certains musiciens qui touchaient au flamenco de près ou de loin, mais c'était en tout cas la première envie là, qui était réelle de collaboration. Encore une fois, comme je le disais en début d'interview, parce qu'il y a cet esprit de recherche dont fait part José et Stéphanie, et puis cette volonté aussi d'avoir un langage éminemment contemporain.
Donc, le violon, la guitare flamenco, le chant, des compositions pour ce spectacle, c'est une vraie création, hein, ce que vous avez créé cette semaine à Tournefeuille, c'était une toute première. Comment vous avez imaginé ces musiques? Gilles Colliard disait que vous les aviez déjà dans la tête, donc c'est des choses qui tournaient dans votre esprit depuis longtemps?
Oui, la rencontre avec Gilles et avec Élise, ce sont deux artistes qui m'ont inspiré tout de suite, donc en les entendant jouer, je les ai entendus à travers ma tradition. Et donc, quelque part, j'ai plus eu qu'à intégrer ce que j'avais pu entendre et arriver à le mettre sur le papier.
Alors, il y a quand même une chose, c'est qu'il y a du chant, donc s'il y a du chant, il y a des paroles.
Du chant traditionnel, du flamenco, je me suis inspiré des chants traditionnels et c'est pareil avec Élise, c'est que ça m'a semblé évident quand je l'ai entendu chanter. Je me suis dit, mais cette chanteuse, il faut qu'elle chante du flamenco. Et donc, je lui ai sorti une partition de suite que j'avais, et on a regardé. Et donc, je me suis appuyé sur les... Il y a des très beaux recueils de chants de flamenco traditionnel, le flamenco un peu ancien, des textes qui sont vraiment très profonds, très beaux. Et donc, j'ai juste eu à piocher dans ma tradition, que ce soit au niveau des mélodies ou au niveau des textes, et puis de mettre tout ça à ma sauce.
Alors, ce spectacle qui mêle le chant et la danse, est-ce qu'il raconte une histoire?
Je pense que ça raconte une histoire différente pour chaque personne et j'aime laisser la liberté aux spectateurs de pouvoir se raconter leur propre histoire. Hein. Et j'espère que chacun y trouvera une place pour son imagination.
Alors pour donner une idée de la musique de José Sanchez, je propose qu'on vous écoute interpréter une de vos compositions. Alors là, c'est une composition qui n'est pas évidemment au programme de ce spectacle. On va vous écouter jouer José Sanchez qui interprète Rondeña.
Thank you.
Rondeña, une composition de José Sanchez, interprétée par José Sanchez, qui est donc en concert avec la danseuse Stéphanie Fuster et l'orchestre de chambre de Toulouse pour donner leur programme flamenco jeudi 14 et vendredi 15 février à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Juste petite curiosité de ma part, je vous posais la question pendant que passait ce morceau. Pour ces compositions, est-ce que vous avez un peu renouvelé votre style ou vous êtes allé chercher ailleurs que tout ce que vous avez pu faire auparavant et peut-être par rapport à ce qu'on vient d'entendre justement?
À chaque fois que je collabore avec, avec un artiste, j'essaye de plonger dans son monde et de voir quels sont les ponts entre ma discipline et la sienne. Sachant que le flamenco avait quand même une partie de ses racines à l'intérieur de la musique baroque, je suis remonté et j'ai retrouvé des styles qui font partie des racines de la genèse du flamenco qui étaient liés à la musique baroque, qui étaient des styles de musique baroque. Et donc, je me suis servi de cette souche pour pouvoir créer la musique du spectacle.
Est-ce que vous composiez et au fur et à mesure, vous soumettiez ce que vous faisiez à Stéphanie Fuster et à Gilles Colliard, ou est-ce que vous avez d'abord composé et vous leur avez présenté le travail définitif ensuite?
Non, travail définitif. Non, j'ai proposé à Gilles énormément de pièces. Je pense qu'il nous en reste une quinzaine dans le spectacle. On a au moins dû en jouer une bonne trentaine. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on les enlevait naturellement. On se posait même pas la question. On les jouait et puis d'autres sont venus. Et puis jusqu'à trouver l'identité qui allait être la nôtre à l'intérieur de ce spectacle.
On va découvrir donc à Saint-Pierre-des-Cuisines les 14 et 15 février. Puisque nous avons la chance d'avoir Gilles Colliard avec nous, je vais lui demander quels sont les programmes des prochains concerts mensuels de l'Orchestre de Chambre à l'Escale de Tournefeuille et à Saint-Pierre-des-Cuisines. Les prochains, eh bien, ce sera le mois de mars. Et là, eh bien, c'est Pergolèse que vous mettez en vedette, si je puis dire. Alors, on ne sera pas étonné d'y trouver le Stabat Mater, mais ce n'est pas la seule à vos programmes, bien sûr, parce que Pergolèse, ben, ce n'est pas que le Stabat Mater. Il y a d'autres très belles œuvres aussi à son palmarès.
Oui, alors Pergolèse est effectivement un grand maître, hein, malgré le fait qu'il va mourir à 26 ans et laisser finalement une œuvre assez réduite due aux peu d'années effectivement où il exercera sa fonction de compositeur, de musicien, puisqu'il rentre au conservatoire à l'âge de 12 ans, donc c'est assez tardif, mais va rencontrer des succès assez fulgurants, bien que sa grande notoriété, qui va le faire connaître dans toute l'Europe, ce sera post-mortem, et notamment grâce à ce Stabat Mater. Alors c'est toujours très très difficile de savoir quelles sont les œuvres réellement composées par Pergolèse. Là j'ai choisi effectivement d'adjoindre au Stabat Mater des concertos, des sortes de concertos grosso, il y a un concerto en sol, concerto en mi bémol majeur, et c'est toujours difficile de savoir quelles sont les œuvres qui ont été réellement composées par ce compositeur, puisque au vu du succès qu'il a eu avec son Stabat Mater, bon nombre de compositeurs de l'époque souhaitaient entendre leur musique et donc signaient leur musique Pergolèse, pour voilà, avoir l'occasion d'entendre leur musique. Et c'était, voilà, jusqu'à nos jours encore, il y a sans doute du faux Pergolèse qui traîne dans les programmations, bien qu'avec les méthodes maintenant où on peut lire les manuscrits, etc., avoir une approche beaucoup plus scientifique, on va dire, des manuscrits, on arrive à séparer le bon gris.
Mais c'est comme pour les tableaux de maître, il y a des experts qui sont capables de dire « oui, ça c'est bien la patte de Pergolèse ».
Exactement.
Et pas d'un autre. Donc des concerts qui auront lieu les 19 et 20 mars à l'Escale de Tournefeuille et les 25 et 26 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et évidemment, le Stabat Mater, il y a des chanteuses. Alors, il y en a une que vous avez déjà citée qui sera présente. On va rappeler son nom.
Tout à fait. Donc, Élise Efremov, et qui sera donc la soprano, et puis la mezzo, Caroline Champy-Tursin, qui est une chanteuse qui réside à Toulouse.
Donc, qu'on connaît bien, puisqu'elle chante souvent avec l'ensemble baroque de Toulouse.
Voilà.
Et je crois même qu'elle fait partie du Chœur Les Éléments.
Tout à fait.
Très active. Hein,
voilà. Et un concert donc de musique baroque sur instrument baroque, puisque j'ai profité depuis des années, bien sûr, de tout ce métier que j'ai dans l'art de l'interprétation sur instrument dit historique, de former donc les musiciens de l'orchestre de chambre qui jouent aussi bien sur instrument baroque que sur instrument classique ou moderne. Voilà.
Au mois d'avril, là, ce sera Edward Grieg. Il va être mis à l'honneur, mais il n'y aura pas que lui. Alors expliquez-nous un peu le programme de ce concert, parce qu'il y a deux compositeurs qui sont au programme et c'est certainement pas un hasard.
Non, c'est jamais un hasard. On essaie toujours, j'essaie toujours d'avoir une certaine logique dans ces thématiques et d'avoir en tout cas des rapports entre les entre les musiciens. Donc vous aurez bien sûr l'occasion d'entendre ce magnifique pianiste qui est Tristan Pfaff dans ce concerto de Grieg. Alors je ne vais pas trop présenter Grieg, voilà, on connaît ce grand maître romantique, mais on sait aussi que Grieg fut un élève de Reinecke. Et c'était important de mettre ce compositeur à l'honneur parce qu'il a été éclipsé par Liszt, mais c'était un Liszt allemand qui était un magnifique pianiste et aussi un compositeur de grande qualité, après qui va avoir toute une partie de son activité plutôt comme pédagogue. Mais voilà, une grande valeur que la musique de Reinecke, puisqu'il a été entre autres professeur de Grieg. Je trouvais que l'enchaînement se faisait tout naturellement.
Alors je ne crois pas dire de bêtises, mais parmi ses élèves, il me semble qu'il y a eu aussi Janáček, Albéniz aussi, donc, puis d'autres connus ou moins connus. Donc très très grand professeur, très grand maître, qui finalement aurait été éclipsé par ses élèves.
Oui, exactement. Et notamment, je pense, par Liszt, parce que c'était vraiment le plus bel exemple de pianiste virtuose, compositeur. Voilà, l'un va devenir, bien sûr, une des premières stars de l'histoire de la musique avec Paganini. La première fois qu'on va commencer à parler autant de l'interprète que du compositeur, voire plus de l'interprète que du compositeur, alors que jusque-là, les interprètes étaient tous compositeurs, les compositeurs étaient tous interprètes, mais il n'y avait pas cette sorte de focalisation sur l'interprète.
Quelles œuvres allez-vous jouer? Donc Grieg, ça sera le concerto pour piano version corde.
Corde, tout à fait. Et puis de Reinecke, une de ses sérénades pour corde.
Oui, parce qu'il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs, absolument.
Alors c'est laquelle celle-ci? Parce qu'il y a des numéros, je crois.
Oui, il y a des numéros. Alors je ne pourrais même pas vous dire, parce que j'ai fait cette programmation il y a plus d'une année. Et je ne pourrais pas vous dire quelle est exactement cette sérénade, laquelle.
Alors moi, j'ai un extrait d'une sérénade pour corde de Karl Reinecke. On va espérer que c'est la bonne, mais après tout, on va en tout cas entendre la musique de Reinecke dans cette forme qui est la sérénade pour cordes. C'est le premier mouvement, on l'écoute tout de suite. Le premier mouvement de la sérénade pour cordes de Karl Reinecke, et Gilles Colliard m'a confirmé que c'est bien celle-ci que vous allez interpréter.
Exactement.
Au mois d'avril. C'est parfait. On passe au mois de mai. Et alors au mois de mai, c'est Tchaïkovski qui est à l'honneur cette fois-ci, avec une œuvre magnifique qui, je trouve, est très bien pour le mois de mai, justement. C'est Souvenirs de Florence.
Absolument. Donc c'est vrai que j'essaie tout au long de l'année d'avoir une programmation très variée, avec de la musique baroque sur instrument baroque. On a eu aussi la venue de Léa et Nino avec un programme Mozart, un programme classique. Et puis cette fin d'année est plus marquée effectivement par les romantiques. Donc Tchaïkovski, avec cette œuvre sublime. Et puis c'est aussi bien sûr une référence à Florence. Et c'est vrai que lorsque l'on va à Florence, c'est fou. Moi j'adore l'Italie, j'adore Rome. Je ne suis pas un fanatique de Florence. malgré tout, dès que je suis à Florence, bon, peut-être que envoûté par l'ambiance, par l'art, et on comprend à quel point cette ville a marqué toutes ces générations d'artistes. Donc, Tchaïkovski fait partie de ces gens qui, après un court séjour à Florence, ben voilà, vont concrétiser, matérialiser ces émotions dans cette musique-là, dans son souvenir de Florence. Accompagné ici par Niels Gade, qui est un compositeur qui va naître une vingtaine d'années avant Tchaïkovski, mais qui est un compositeur danois et qui compose, je trouve, un sextet ici, opus 44, un peu dans le, avec une écriture finalement relativement proche de celle de Tchaïkovski dans l'art, on va dire, de faire dialoguer les différentes voix.
Ouais, ce sera un sextet, lui. Hein,
ce sera un sextet, absolument.
Un sextet, donc à cordes, hein, puisque c'est l'orchestre de chambre qui va jouer. Et c'est vous qui serez le soliste cette fois-ci.
Tout à fait.
Pas de musicien invité, si je puis dire.
Non.
Niels Gade, donc ce compositeur danois, ce sera donc l'occasion de le découvrir les 11 et 12 mai à l'Escale de Tournefeuille.
11-12 mai à Tournefeuille. Et les 20 et 21 mai, l'occasion pour le public d'entendre d'autres grands compositeurs romantiques, Brahms et Bruckner. Voilà, on a fait une double programmation ici de musique donc romantique de chambre, avec le quintet à deux altos de Brahms et le quintet à deux altos de Bruckner, œuvre absolument splendide. C'est vrai qu'on connaît Bruckner sous son aspect, bien sûr, sous le grand compositeur symphonique et cette couleur très particulière, et je vais dire cette spiritualité, je trouve, qui émane de cette musique de Bruckner. Ici, on le retrouve dans une œuvre qui est sa seule et unique tentative de musique de chambre et qui est absolument totalement envoûtante. Donc voilà, soit vous voulez venir écouter Tchaïkovski et Gade le 11 et 12 mai à Tournefeuille, soit vous souhaitez réserver vos soirées du 20 et 21 mai à Saint-Pierre-des-Cuisines pour Brahms et Bruckner, soit vous voulez venir à la fois écouter Tchaïkovski et Brahms et Bruckner, vous êtes les bienvenus.
Bah, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, évidemment. Puis ce sera l'occasion de mettre en avant l'alto, instrument qui n'est pas toujours au centre des œuvres des grands compositeurs, mais cette fois-ci, ce sera le cas. Donc, les derniers concerts de la saison, ou les derniers concerts mensuels plutôt de la saison, ce sera Vivaldi et Bach. Là, on voit la corrélation, on la voit très bien entre les deux. Pourquoi vous avez voulu finir par ces deux compositeurs en ce mois de juin 2019?
Bien, écoutez, nous voulions aussi mettre en avant un des derniers disques que l'on a enregistré avec l'orchestre de chambre. C'était l'intégrale des concertos de Vivaldi pour flûte avec Vincent Lucas. Alors, c'était une magnifique rencontre artistique parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'enregistrer des œuvres baroques avec des instruments modernes. Bien que je pense qu'on puisse véritablement, si on est sensible à l'articulation, si on est sensible à des paramètres de tactus et des paramètres musicaux comme ça qui deviennent prépondérants, qu'importe l'instrument qu'on utilisera. Je pense qu'il y a un faux débat quelque part. C'est comme ce débat sur la hauteur du diapason. Faut-il jouer les œuvres baroques à 415? Ben oui, mais en sachant que Bach était à 392 à Leipzig, que Vivaldi est à 440 à Venise, et voilà, donc la hauteur du diapason est pour moi tout aussi futile. On va dire que dans le fond, l'authenticité de l'instrument qui viendrait de tel luthier monté de telle ou telle manière. Certes, le fait de jouer sur des instruments avec des cordes au boyau et des instruments dits historiques nous restitue une couleur qui est sans doute très proche de la couleur de l'époque. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas, avec un travail de style approfondi et même de rapport entre la corde et l'archet, avoir sur des instruments modernes des interprétations qui finissent par être très très proches des interprétations dites sur instruments d'époque. Donc, c'est vrai que quand on m'a proposé d'enregistrer ce disque avec Vincent Lucas de l'intégrale des concertos de Vivaldi, moi je connaissais l'artiste virtuose qui est Vincent Lucas. Après, j'avais quelques appréhensions parce que je suis d'accord de... On dit que la musique, c'est l'art du compromis, donc je suis d'accord de faire des compromis, mais là, quand même, de laisser une trace de ce genre de musique avec une personne qui aurait été très, on va dire, romantique, ou etc., je ne sais pas comment, d'ailleurs, j'aurais vécu cette aventure. La très grande surprise et magnifique, ça a été de rencontrer chez Vincent un homme totalement ouvert et disposé à écouter mes quelques conseils, à prendre mes tempi, et à se lancer dans cette interprétation avec une souplesse hallucinante, et en fait, on s'est retrouvé à faire un disque qui maintenant reçoit les meilleures critiques de tous les magazines, et notamment de magazines spécialisés dans la musique baroque qui disent, mais voilà, quelle belle version qui surpasse en plus bien d'autres. Donc j'étais absolument ravi de collaborer avec ce merveilleux flûtiste, parce que c'est ce disque, c'est le sien, c'est à la fois sa virtuosité mais aussi sa souplesse, cette facilité qu'il a eu à pouvoir rentrer dans cette esthétique-là. Donc je lui devais de lui réserver ce concert de juin.
Ce sera d'une certaine manière un hommage donc à Vincent Lucas et à sa flûte. trois compositeurs au programme. Il n'y a pas que Vivaldi et Bach. Il y a un intrus. C'est pas tout à fait un intrus. Il y a Scarlatti, donc il y a une œuvre de Scarlatti.
Tout à fait, d'Alessandro Scarlatti, donc le père de Domenico. Et il est évident pour moi que on était dans une esthétique très italianisante. On sait très bien que Jean-Sébastien Bach se nourrit de toutes ces influences. D'ailleurs, à l'époque, on est vraiment dans une Europe de la culture, hein, où Telemann, voilà, compose des ouvertures à la française, compose dans des styles, voire même irlandais. On trouve toutes les influences. Et dans le fond, on les met en avant. Et on est dans une, voilà, dans cette Europe du partage où on se nourrit de toutes les cultures. Donc, Scarlatti avait toute sa place, puisqu'il influence, bien sûr, à la fois la musique de Vivaldi, à la fois la musique de Jean-Sébastien Bach. Longtemps, pendant des années, on a considéré que certains concertos pour clavier de Jean-Sébastien Bach étaient très italianisants. On les appelait d'ailleurs les concertos italiens, jusqu'au jour où on réalise que c'était effectivement des concertos italiens, puisqu'il avait repris des concertos de l'estro harmonico de Vivaldi pour les transcrire pour clavier. Donc voilà, il y a encore cette Europe qui se nourrit de toutes ces belles différences enrichissantes.
Donc il y aura deux concertos grosso, le 1 et le 2 d'Alessandro Scarlatti, les concertis pour flûte opus 10 numéro 3 et 5 d'Antonio Vivaldi et la suite en si de Jean-Sébastien Bach, si je m'abuse c'est la suite numéro 2 et c'est celle où on entend notamment ce morceau très célèbre que je vous propose d'écouter maintenant. La badinerie de la suite numéro 2 en si de Jean-Sébastien Bach, interprétée ici par Jean-Pierre Rampal, une des œuvres au programme des concerts du mois de juin de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Et puis, je voulais que nous annoncions le prochain concert de la saison Toulouse Guitare au Temple du Salin, vendredi 15 février à 20h. C'est le guitariste français Jérémy Jouve qui va s'y produire avec un programme d'œuvres de Duplessis, Urquhouse-Unoff, Tedesco, Rodrigo et Jean-Sébastien Bach, encore lui. Mais en dehors de ce concert, je voulais aussi qu'on parle du directeur artistique de Toulouse Guitare, le jeune guitariste toulousain Thibaut Garcia, parce que figurez-vous, si vous ne le savez pas encore, qu'il fait partie des trois finalistes de la catégorie Révélation soliste instrumentale de l'année des prochaines victoires de la musique classique. Les résultats vont être proclamés le 13 février, lors d'une soirée retransmise en direct sur France 3. C'est le public qui va en partie élire, si on peut dire, le lauréat de cette catégorie des révélations. Et évidemment, je voulais qu'on évoque Thibaut Garcia parce que si il pouvait obtenir cette récompense, bah, ce serait formidable pour la guitare, bien sûr, la guitare classique en France, pour lui, mais aussi pour la formation musicale toulousaine, parce qu'il est né à Toulouse et il a été formé au conservatoire à rayonnement régional toulousain. Qu'est-ce que vous en pensez, Serge ?
Ah, mais je vote des deux mains pour lui, parce que c'est non seulement un grand instrumentiste, un grand guitariste, mais c'est un grand musicien. C'est vraiment une personnalité importante, qui en plus est une personne tout à fait sympathique et qui ne se met pas en avant, notamment dans le festival, enfin la saison qu'il a montée de Toulouse Guitare. Donc c'est formidable. Et moi je trouve dans cette saison un intérêt particulier, c'est que pour chaque concert, il invite une vedette de la guitare, mais qu'il fait précéder comme une sorte de vedette américaine par un jeune guitariste, la plupart d'entre eux issus de Toulouse d'ailleurs. Et donc c'est une idée formidable. Hein. Donc Thibaut Garcia, Garcia mérite largement le titre de révélation, puisqu'il est déjà une révélation.
Oui, alors il sera opposé, si on peut dire, à deux pianistes, dont Alexandre Kantorov, qui va bientôt se produire avec l'Orchestre National du Capitole. On va en parler dans quelques instants. Avant, je voulais qu'on revienne à Jérémy Jouve, donc, qui va être la vedette du prochain concert de Toulouse Guitare le 15 février. Alors, est-ce que vous connaissez ? Ça vous dit quelque chose, Jérémy?
Eh bien non, je connais le nom, mais je n'ai jamais entendu ce guitariste, donc c'est une belle découverte
alors lui
à
aussi,
laquelle on va assister.
Il est encore jeune, mais il est un peu plus âgé que Thibaut Garcia, un peu plus avancé dans la carrière. Il a été multi-récompensé, il a eu un grand nombre de prix, il fait une carrière internationale et il a un répertoire très très large, ce garçon. Il s'intéresse beaucoup à la création musicale contemporaine et il collabore souvent avec un jeune compositeur français du nom de Mathias Duplessis, dont il va jouer d'ailleurs plusieurs pièces vendredi 15 février au Temple du Salin. On va écouter l'une d'entre elles, le titre c'est Cavalcade, Mathias Duplessis, interprété par Jérémy Jouve. Cavalcade, œuvre de Mathias Duplessis, interprétée par Jérémy Jouve, que vous pourrez découvrir en action vendredi 15 février à 20h au Temple du Salin pour le troisième concert de la saison de Toulouse Guitare. Il y a aussi au programme une première partie avec le talentueux jeune guitariste Raphaël Guichard, élève ou ancien élève du Conservatoire de Toulouse. Quant à Thibaut Garcia, je vous invite à le soutenir pour qu'il obtienne la victoire de la révélation soliste instrumentale de l'année en votant pour lui sur le site web des Victoires de la Musique Classique ou sur celui de France Musique. Sachez que le vote du public va compter pour moitié dans la désignation du lauréat de cette catégorie. Et dans cette catégorie, il a donc pour concurrent le pianiste Alexandre Kantorov, qui se produit lui aussi le 15 février, curieux hasard du calendrier, avec l'Orchestre National du Capitole. Ce sera 20h à la Halle au Grain. Alors Serge, dites-nous un peu ce qu'il y a au programme de ce concert.
Voilà, le deuxième concerto de Tchaïkovski, et donc qui est un peu dans l'ombre du premier justement, hein, qu'on n'entend pas souvent. Donc c'est une bonne chose qu'il joue le deuxième concerto. Bon, c'est un jeune pianiste. Certains savent déjà, étant donné son nom, qu'il est le fils d'un célèbre violoniste, Jean-Jacques Kantorov, qui est également célèbre chef d'orchestre. Et d'ailleurs, sa mère est également violoniste. Donc, il est
un enfant de la balle, comme on dit.
Ah, complètement. Et donc, il sera le soliste de ce deuxième concerto de Tchaïkovski. Et puis, l'Orchestre National du Capitole sera dirigé par un grand chef qu'on a déjà vu ici et qui s'appelle John Stogard et qui est de nationalité finlandaise et qui dirigera, outre la partie orchestrale du concerto, la 5e symphonie de Sibelius. Et ça tombe très bien parce que c'est un peu la musique qui coule dans ses veines.
Son compatriote Sibelius.
C'est son compatriote et sachez que John Stogard est un grand spécialiste qui a à son répertoire toutes les symphonies de Sibelius, toutes les symphonies de Nielsen, toutes les symphonies de Bruckner, de Beethoven, de Schubert et de Schumann. Sachez qu'il a également dirigé, il a donné un cycle historique de 54 symphonies de Mozart, puisqu'il y a certaines symphonies de Mozart qui ne sont pas numérotées. C'est vraiment un grand chef symphoniste, hein, donc, que nous retrouverons à la tête de l'Orchestre Capitole dans la 5e symphonie de Sibelius, une partition
qui est très
flamboyante,
belle,
magnifique, extraordinaire. Donc, ce sera un grand plaisir là aussi.
Il va falloir faire des choix le 15 février parce qu'il y aura beaucoup de très beaux concerts ce soir-là, malheureusement. Ce sont des choses qui arrivent souvent à Toulouse.
Mais ne nous plaignons pas de l'extrême richesse de la vie musicale toulousaine.
Surtout pas. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro de Mélomanie. Merci encore une fois à vous, Serge Chosy, de l'avoir co-animé avec moi. Tous mes remerciements également à Gilles Colliard et José Sanchez d'avoir répondu à mon invitation et d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que l'orchestre de chambre de Toulouse, José Sanchez et la danseuse Stéphanie Fuster donnent leur programme flamenco à Saint-Pierre-des-Cuisines les jeudis 14 et vendredi 15 février. Ces deux concerts commencent à 20h30 et vous pouvez vous renseigner et réserver sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Avant cela, mardi 12 février à 18h15 à l'auditorium du musée des abattoirs, le jeune et très prometteur pianiste toulousain Vincent Mussa est en concert dans le cadre de la Saison Bleue. Il a joué un programme d'œuvres de Fauré, Ravel, Granados et Chopin. Vous pouvez en découvrir le détail et faire vos réservations sur le site www.lasaisonbleue.toulouse.fr. Je rappelle donc aussi que la Saison Toulouse Guitare propose un concert du guitariste Jérémy Jouve, vendredi 15 février à 20h au Temple du Salin, avec le jeune Raphaël Guichard en première partie. Pour découvrir le détail des programmes des deux musiciens et réserver vos places, il faut vous connecter au site www.toulouseguitare.fr. Et enfin, je signale le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole avec le tout jeune pianiste Alexandre Kantorov. C'est également vendredi 14 février à 20h à la Halle aux Grains. Au programme, il y a le 2e concerto pour piano de Tchaïkovski et la 5e symphonie de Sibelius. Renseignements et réservations sur le site www.onct.toulouse.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir encore assuré la régie technique de cette émission, qui est disponible en podcast et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.